We do biz.
We do biz.
Devenons business.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Politique PME, donc cette grande émission que quelques millions de personnes s'arrachent pour écouter irrégulièrement, puisque nous sommes très irréguliers, c'est la marque de cette émission. Et nous avons un grand plaisir à accueillir aujourd'hui Alexandre Caillé qui nous rejoint. Bonjour.
Merci
Alexandre.
Merci de votre accueil. Alexandre Caillé.
Caillé, voilà. Justement, c'était ma deuxième question. Est-ce que je prononce bien?
Ça arrive très souvent. On a tendance à dire Caillé, c'est pas un problème. Mais Caillé comme la ville, sauf que ça s'écrit pas pareil.
Voilà. Moi, je suis normand, donc Caillé, le lait, donc c'était plus naturel dans mon langage.
Aucun problème.
Alexandre, on va passer 30 minutes ensemble. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir parce que d'abord, on n'a pas toujours des candidats jeunes. Donc, ça fait plaisir. On n'a pas toujours des candidats qui sont issus du terrain, ça fait plaisir aussi, on en parlait un peu hors micro avant. Et puis on n'a pas toujours des candidats avec un langage qui ne soit pas un langage policé, diplomatique, parce que évidemment vos contraintes sont pas non plus les mêmes, ça vous donne une grande liberté d'expression et donc du coup ça va nous permettre d'avoir une émission assez libre et ouverte. D'ailleurs on y viendra avec votre slogan tout à l'heure.
Oui.
Donc je sais pas si vous le prononcez sur les autres radios, mais ici on s'interdit rien, donc je vous le laisserai le
voir. Je le prononce ailleurs, je le prononcerai ici aussi.
Exactement. Donc Alexandre, une première question. Comment est-ce qu'on tout à coup on se réveille un matin, d'ailleurs c'est sûrement pas comme ça que ça s'est passé, mais vous allez me dire, et qu'on se dit je veux être candidat à une présidentielle de mon pays?
Tout d'abord, j'évite de m'interdire des choses. Je trouve qu'on est dans un pays libre. Je réponds à tous les critères, que ce soit d'âge, mon casier du judiciaire est vierge, j'ai fait ma journée d'appel à la défense. Voilà, vous pouvez noter, vous pouvez aller vérifier. Donc à partir de là, quand je remarque qu'il y a qu'on a des partis politiques aujourd'hui qui ont quand même, selon moi, beaucoup de défaillances, qui travaillent plus pour leur rente personnelle que pour l'intérêt de la nation, que la prise de risque aujourd'hui n'est pas partagée par tout le monde, je trouve qu'il faut qu'à un moment donné, quelqu'un puisse venir donner l'exemple. C'est ce que j'essaye, avec maximum d'humilité, de faire.
Et est-ce que finalement cette vocation, elle vient d'un peu de... Désolé du terme fort, mais d'un peu dégoût de la politique traditionnelle, donc c'est une raison un peu négative, ou est-ce que c'est aussi une raison positive de dire, voilà, ça fait des années que j'y pense, j'en rêve, j'ai envie d'être utile à mon pays, et tout à coup ça s'exprime à ce moment-là, particulièrement, pourquoi pas en 2007, pourquoi en 2012, pourquoi pas en 2017, enfin en gros, pourquoi maintenant?
Oui, alors je vais vous dire, moi j'aime mon pays, donc déjà je suis fier de ce pays dans lequel je vais vivre, dans lequel j'espère mes enfants vont vivre, donc j'ai pas l'intention d'aller partir en Suisse ou au Canada pour faire une nouvelle vie. Moi c'est ici que ça se passe. Je vais vous dire, moi j'ai jamais rêvé d'être président, jamais rêvé de faire de la politique. Déjà juste de le dire, faire de la politique, c'est quelque chose qui tout de suite me met de mauvais poil. Moi je participe au débat public, je suis un citoyen engagé. Alors effectivement je suis chef d'entreprise, je paye des salaires, je vis dans l'adversité. Baïonnette au canon, à la différence de d'autres qui nous donnent des leçons, qui sont dans leur bunker et qui souvent n'ont aucune sensibilité économique et encore moins sensibilité entrepreneuriale. Donc souvent on a l'impression quand on les entend qu'ils parlent d'autre chose. Je me concentre, alors je regarde encore une fois une émission, je me dis c'est peut-être moi qui n'ai pas compris, et puis non, en réalité je pense que c'est eux qui ne comprennent pas. Donc à partir de là, moi j'essaye de regarder les partis, comme beaucoup de Français, je pense, et je me dis, je vais m'inscrire peut-être dans un parti pour essayer de porter mes convictions, pour pousser, pour faire en sorte que la France devienne plus grande et meilleure. Le constat aujourd'hui, c'est que je n'ai, moi, aucun parti. Je pense, comme beaucoup de Français, on n'a pas un parti. Les gens votent par élimination, les gens votent pas par dépit. On a souvent, quand on voit l'abstention, le nombre de gens qui votent blanc, c'est assez édifiant. Le nombre de gens qui votent aux extrêmes. Moi, je considère beaucoup de gens votent aux extrêmes pour dire merde au système, plus que pour cautionner de la Marine Le Pen négationniste et du Mélenchon ou du Monsieur Poutou collectiviste. Donc on a un paysage démocratique en France qui m'effraie. Et puis on a surtout aussi, moi je m'amuse à dire, on a aussi beaucoup de partis satellites. Quand on voit le positionnement de certains partis, je pense notamment que ce soit le mode qui on a l'impression qu'à n'importe quel moment Monsieur Bayrou va devenir le premier ministre du futur président de la République, peut-être le mien, j'espère. On a à côté le groupe des Verts qui arrête pas de faire coucou au Parti socialiste en espérant peut-être avoir deux ou trois de leurs barons intégrer un gouvernement pluriel de la gauche. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Un parti doit être indépendant, un parti doit porter ses idées et il doit pas avoir un nuancier politique comme au Parti socialiste où on a aujourd'hui Monsieur Montebourg et Monsieur Valls qui vont peut-être faire partie du même gouvernement. Quand on voit la différence de proposition entre les deux, on se demande mais comment on peut créer une équipe comme ça. Il y en a un qui veut essayer d'aller un peu vers l'avant, Monsieur Valls, et puis l'autre qui est là, qui repart dans les années 20. Et à droite, c'est pareil. On a un programme, on a la droite populaire et puis le projet humaniste, la droite humaniste. Enfin, je veux dire, c'est plus des partis, c'est des monopoles qui essayent de rester au pouvoir pour continuer les petites rentes, pour continuer le petit tour parisien habituel.
Alors, il faut toujours repartir du commencement. C'est toujours une bonne façon d'avancer. Vous démarrez comment dans la vie? Vous m'avez dit, mon premier métier, c'est l'hôtellerie.
Voilà, moi j'ai commencé, je vous expliquais. Je m'amuse à dire que c'est une purée qui m'a fait arrêter mes études.
D'accord.
Je regrette pas d'avoir arrêté mes études, même si je dis aux gens, en fait, des études, un maximum d'études. Moi, j'étais à la fac de Paris 1, je faisais de l'éco-gestion, j'aimais bien.
Ouais.
J'avais aucun problème. J'ai commencé à travailler. J'ai travaillé chez Monsieur Robuchon dans le 16e à l'époque, donc la table de Jean Robuchon. Et j'ai eu un coup de foudre pour le métier. Il y a une rigueur extraordinaire. J'ai pas retrouvé ça nulle part ailleurs. Mmh. Beaucoup de détermination, une amplitude horaire assez incroyable. Je me faisais un malin plaisir de montrer que j'étais pas fatigué alors que j'avais des semaines les unes plus dures que les autres. Et puis, petit à petit, je me suis dit, pourquoi pas moi-même pouvoir me créer mon propre restaurant. Mmh. Donc j'ai commencé au SMIC hôtelier, donc à 897 euros par mois, et je pense pas en être mort. Je pense que ça m'a beaucoup apporté. Et puis j'ai essayé de faire les choses le mieux possible en respectant mon entreprise. Même quand j'étais salarié, je faisais en sorte de me battre pour mon entreprise et de transpirer pour elle.
Et vous montez votre première boîte à quel âge?
Alors j'ai monté parce qu'effectivement, comme je vous ai dit, je suis multicasquette. J'ai eu une première entreprise de service aux particuliers. Mmh. Donc comme j'étais un plutôt bon élève, j'embauchais des étudiants pour faire des cours de maths. Donc je concurrençais à l'époque les fameuses Acadomia. Ouais. Ça a marché trop bien, trop vite. Mmh. Et je pense que j'avais pas la maturité nécessaire pour assumer un début de logistique qui commençait à devenir un peu trop importante.
Vous aviez quel âge ?
J'avais 18 ans ou 19 ans, je sais plus. 19 ans, je crois que j'avais.
Oui, c'est vieux déjà.
C'est déjà, oui, déjà, j'avais de la barbe déjà.
Ouais.
Et j'ai commencé, ça a commencé à me prendre vraiment beaucoup de temps. Et puis à un moment donné, j'ai revendu mon fichier client à une entreprise qui était un petit peu plus solide que la mienne. Pour repartir, donc tout en continuant à travailler dans la restauration, pour repartir avec un copain j'avais un copain qui est très doué, qui l'est toujours d'ailleurs, on a créé une agence web, donc on vendait des sites internet.
D'accord.
Et là, il s'est avéré que, même problème que la première fois, on a commencé à avoir un portefeuille clientèle assez important.
Ouais.
On a été débordé, et je pense que là, cette fois-ci, c'était mon associé qui était pas assez mature pour répondre à la demande. Et je me suis retrouvé une fois dans une situation où j'ai eu un client qui n'avait pas été servi en temps et en heure, et ça m'avait quand même plutôt atteint. Donc j'ai décidé de fermer et puis d'ouvrir mon restaurant qui était mon petit rêve caché.
D'accord.
Voilà,
j'ai raté l'épisode la purée.
Oui, alors voilà, c'est voilà,
enfin, on reviendra à la politique.
Non, c'est le côté gastronomie. Moi, je suis passionné aussi, voilà. Ouais. Je suis passionné par la gastronomie. Effectivement, Monsieur Robuchon fait une, pour ceux qui ont eu la chance d'y aller, fait une purée extraordinaire. Et ça m'a complètement j'ai été frappé comment on pouvait avec des pommes de terre et du beurre faire quelque chose d'aussi extraordinaire que ça. Donc c'était un choc gastronomique. Ouais. J'étais déjà amateur de vin et de bons repas, et là vraiment je suis monté vraiment c'était le 7e ciel, hein. C'est-à-dire que je commençais à osciller dans le top de ce qui se faisait, quoi. C'est l'élite. D'accord. L'élite de la gastronomie.
Bien évidemment. Puis comme disait Roger Hanin, purée, je vais faire de la politique.
Ouais, bon, on est bien, voilà, on est bien.
Il y a plusieurs vocations qui ont commencé comme ça. Alors, revenons un petit peu sur cette envie de faire de la politique. Quand on préparait un petit peu l'émission, vous me disiez, j'ai envie de porter une pureté de la vision politique. On est parlé de la purée à la pureté.
On va rester. Alors,
quelle est cette définition de la pureté pour vous?
Pour vous dire, je considère qu'aujourd'hui, si nous, donc que ce soit un chef d'entreprise, je prends l'exemple du chef d'entreprise et du médecin. Mmh. Si nous, on apportait, on travaillait comme travaillent aujourd'hui nos responsables politiques, donc à se détourner des problèmes, à les mettre sous le tapis, à attendre que la situation s'améliore alors qu'elle ne fait que pourrir. Mmh. Je pense qu'on aurait de graves difficultés. Bon, en tout cas, je peux pas me le permettre en tant que chef d'entreprise. Mmh. Et si un médecin a travaillé de la même manière, on serait dans une situation très très difficile. Donc, j'ai été heurté, moi, devant ce que j'appelle, moi, la lâcheté, l'hypocrisie politicienne. Mmh. Dire que on profite, on veut tourner autour du pot pour essayer de gratter quelques mois en plus dans son ministère, pour essayer de faire son cinéma dans tout Paris, dans les beaux dîners. Beaux dîners que je faisais moi à l'époque où je travaillais. Donc là aussi j'avais été confronté à ces hommes politiques qui m'ont paru, qui sont tellement encensés, on les voit, on dit c'est des grands hommes, souvent on lit la presse, on a l'impression que c'est Napoléon Bonaparte qui vient de ressusciter, on a l'impression que c'est, et en réalité quand on les côtoie, comme j'ai pu les côtoyer comme ça indirectement, on se rend compte en fait qu'ils sont comme les autres, il leur arrive de manger la bouche ouverte, il leur arrive aussi de dire des bêtises. Donc je me suis dit que pourquoi pas peut-être un jour essayer de d'aider mon pays pour le rendre plus fort.
Bon, donc vous partez du constat que finalement on a une élite politique qui finalement s'est éloignée un peu de sa base.
Plus qu'éloignée, éloignée, voilà, c'est un euphémisme.
Qu'elle est là pour défendre plus ses intérêts, en gros, si je résume, dites-moi si je me trompe, mais plus pour ses intérêts personnels et le maintien de son statut que pour les intérêts de ses électeurs. Une vision trop court terme et effectivement un manque de visée à long terme. En gros, je résume bien.
On est bien d'accord. Je vais vous donner un seul exemple. Ça va faire rire les auditeurs. Vous prenez les députés qui sont votés. Trois ans de chômage après la fin de leur mandat. Et est-ce que vous savez pourquoi ils sont votés trois ans de chômage? Ils sont votés trois ans de chômage parce qu'il s'est avéré qu'après la fin d'un mandat, un député français ne trouve pas de travail. Parce que la réalité, c'est, il va servir à quoi? Il va aller dans une entreprise? Il va faire quoi dans l'entreprise? Quand on est habitué à toucher 12 000 euros par mois net, imposé sur 5 000, qu'à côté on a une enveloppe parlementaire de 8 000 pour se payer des collaborateurs, quand on arrive dans une petite PME, et qu'on vous propose un salaire de 2500 euros, et le patron, déjà 2500, il commence à faire ses calculs. 2500 x 2, ça fait 5000, 5000, 60 000, plus sa voiture de fonction, plus il se dit où ça va faire une petite enveloppe de 80 000, il faut qu'il en rapporte au moins 160 pour qu'il y ait une certaine émulation qui se crée, pour qu'à un moment donné, son poste devienne viable. Mais c'est des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. J'ai lu dans la presse qu'il y a eu 16 lois de finances qui ont été votées, 16 en déficit. Donc c'est plus possible. Moi je dis stop, c'est fini. Vous êtes amusés, c'était bien sympa, on a bien rigolé. Maintenant, allez, vous allez commencer à travailler. Et peut-être que des gens sérieux qui n'ont pas d'intérêt personnel. Moi j'ai pas envie de. J'aurais honte d'être payé comme ça en étant député. Moi je me verse aujourd'hui, je me verse en tant que chef d'entreprise, je me verse 1800 euros de salaire par mois. J'ai mon plus bas salaire chez moi, c'est 1300. Je pense que je vole personne. Je pourrais me verser plus, mais je suis là pour protéger mon entreprise parce qu'un chef d'entreprise, il est là pour ça, pour rien d'autre. Et je vis correctement, j'ai pas besoin d'avoir une vie de star de cinéma, sinon j'aurais été faire les cours Florent.
Alors, on a avant de rentrer un petit peu dans vos mesures, aujourd'hui finalement vous avez choisi de ne pas avoir d'étiquette, mais simplement la vôtre. Est-ce que ça veut dire que néanmoins il y a des partis ou des sensibilités qui ont plus de plaisir à vos yeux, dont vous vous sentez plus proche, ou finalement ce que vous venez de décrire fait que c'est une catégorie, la politique, qu'elle soit droite ou gauche, dont vous vous sentez maintenant assez étranger? Ou est-ce qu'au contraire, il y a quand même une tendance ou une vision ou un dogme de la société dont vous vous sentez un petit peu plus proche qu'un autre?
Alors, je vais vous dire, au niveau des partis politiques, vous allez sourire, mais il faut bien comprendre ma psychologie. Moi, j'aime bien quand il y a une cohérence. J'adore la cohérence. Aujourd'hui, les seules personnes cohérentes sur cet échiquier politique, je ne vais pas me parler de moi, mais je trouve que c'est les types à l'extrême gauche. Je ne parle pas de M. Mélenchon, je parle de M. Poutou. Parce que M. Poutou, il vit avec ses idées. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, à un moment donné, comme M. Strauss-Kahn ou comme certains partis socialistes, vous prenez la brochette, la moitié entre eux paye l'ISF. Ce sont des gens fortunés qui ont un niveau de vie très au-dessus de leur électorat. De parler du peuple. Et être socialiste tout en étant fortuné et être payé l'ISF, pour moi, c'est des choses que je ne comprends pas. Ne me l'expliquez pas, je ne le comprendrai pas. On ne peut pas aujourd'hui, quand on a un salaire moyen en France qui est de 2000 euros, qu'on a un salaire moyen des médecins à 4400 euros, on peut pas être, nous, enfin eux, être des gens du système dans un pays à la limite de la faillite, avec des comptes publics qui sont dans un état calamiteux, être fortuné. C'est un contresens. C'est un peu comme les banquiers, où vous en avez qui se prennent des bonus alors que le système bancaire s'effondre, alors qu'ils sont obligés de licencier. C'est-à-dire qu'il faut de la cohérence. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on manque. C'est-à-dire qu'il y a une symbolique et de la cohérence. Maintenant, au niveau de ma sensibilité, moi, j'ai dû innover comme une petite entreprise pour attaquer ces gros poids lourds que sont l'UMP, le Parti Socialiste, et d'autres aussi. Donc j'ai dû me placer à l'extrême centre. Donc le premier parti d'extrême centre.
D'accord.
Je pense, d'après mes recherches, que je suis le premier à me positionner là-bas. Alors,
mathématiquement, je vous le confirme.
Bon ben voilà, c'est pour ça. Donc droit au but.
Ouais.
On arrête de tourner autour du pot. On est dans une guerre économique globale qui est terrifiante si on reste comme on est aujourd'hui. C'est-à-dire apeuré, à nous cacher derrière notre ligne Maginot et à penser que avec des petites mesures protectionnistes ou en faisant des massages aux gens qu'on allait s'en sortir. Il faut qu'on prenne nos baïonnettes, on se mette dans les tranchées et on affronte l'adversité.
Alors, puisqu'on parle d'armée, comment sont constituées les armées d'Alexandre Calais sur France Unité ? C'est-à-dire, vous travaillez tout seul, vous avez des amis, vous avez une équipe. Comment ça fonctionne aujourd'hui ? Comment vous travaillez sur vos mesures ?
J'ai effectivement un noyau dur, une équipe. Ouais. Moi, je suis aussi membre d'associations. Ouais. Donc, j'ai énormément de gens qui m'ont témoigné beaucoup de sympathie et qui sont venus pour me proposer leurs compétences. Ouais. J'essaye d'avoir quand même une prise assez large, c'est-à-dire que de l'expert comptable, en passant par le petit commerçant qui avait une ancienne vie professionnelle, qui va apporter un témoignage, une vie, une histoire. Ouais. Et j'essaie de m'imprégner. J'essaie aussi d'aller vers des gens que je connais comme voulant être sur une ligne d'honnêteté. Donc ils vont me dire les choses telles qu'elles sont, sans passer par quatre chemins ou en me caressant dans le sens des poils. Donc j'ai besoin de ces gens autour de moi. Et heureusement qu'ils sont nombreux. Sinon je pense que ce serait d'autant plus difficile.
Comment on travaille ce fameux blocage des 500 signatures en France ?
Alors moi j'en ai 40 pour l'instant. Ouais. Je pense pas encore avoir commencé réellement à démarcher. Ouais. J'attends encore un petit peu pour être connu parce que c'est très difficile. J'ai effectivement quelques maires qui attendent. Ils veulent voir est-ce que je suis sain d'esprit, est-ce que je vais pas déraper, est-ce que c'est pas un fou, est-ce qu'on va pas apprendre qu'effectivement il était membre d'Al-Qaïda il y a encore quelques années.
Donc, bien rasé, là.
Je suis bien rasé, la barbe, oui, effectivement. Ouais. Je voulais passer incognito. Mais, donc, ils attendent. Mais je pense que j'ai aucun doute. Je dis ça, j'ai aucun doute sur mon obtention des 500 signatures. Mon positionnement est honnête. La campagne me coûte cher. Je fais ça sur mes propres deniers. Mmh. Je suis loin d'être fortuné. J'ai mon épargne qui a presque fondu. Donc, je me prépare déjà à vendre ma voiture pour commencer à finir la dernière ligne droite.
40 signatures, il y a des gens de droite, des gens de gauche.
Non, c'est sans étiquette. Ouais. Maintenant, j'espère pouvoir, dans mon positionnement, jouer la concurrence. Et peut-être qu'à moyen terme, je serais peut-être un candidat qui pourrait faire de l'ombre à d'autres et que certains partis seraient tentés par stratégie politicienne, de me donner les 500 signatures.
Alors, on va venir un petit peu sur un certain nombre des mesures. Et là, je m'empare du papier parce que je ne peux pas me souvenir de tout, mais on va prendre quelques points comme ça. Alors, on vous l'a expliqué, l'histoire, l'idée de l'émission, c'est que forcément, on a une sympathie particulière pour, en plus, dans une radio de gens qui ont votre âge. Moi, je fais figure de vieux, ça me fait de la peine à chaque fois. Donc, à chaque fois, je fais une injection de Botox avant d'arriver dans cette émission. Mais on va jouer vraiment le vrai jeu du qui aime bien châtie bien. C'est-à-dire, on passe tout, y compris les choses qui nous paraissent.
Vous avez raison, je suis un compétiteur, je suis prêt.
Voilà. Et puis, de toute façon, c'est sans animosité, donc on le fait de façon très dénordue. Alors, quand même, Alexandre, donnez-nous votre slogan, parce que c'est le bon moment pour le placer.
Voilà, mon slogan, c'est le bon sens à tout prix, virgule, couille molle s'abstenir.
Très bien, voilà, comme ça c'est dit, et c'est tout à fait clair comme ambition. Alors, on est passé de purée à couille molle, il y a une vraie cohérence, vous vouliez de la cohérence,
ouais,
on
est là.
Bon, alors, première, la désadministration, il y a eu Gainsbourg à prôner le désamour, là on est à la désadministration, alors c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que grosso modo, où qu'on soit aujourd'hui, tout le monde se pose enfin la question de savoir comment est-ce qu'on désentête l'EDA, et notamment comment est-ce qu'on rend son fonctionnement moins coûteux. Bon. Alors, vous y allez directement de façon assez forte. Il y a quatre mesures, enfin il y a plusieurs mesures, mais il y en a quatre sur lesquelles je me suis mis un petit point d'exclamation. Suppression de 80 000 postes de fonctionnaires par an. Est-ce que vous y allez à la SERP ou est-ce que vous y allez ministère par ministère avec un discernement différent par typologie d'administration ?
Alors, on est obligé de faire ça avec beaucoup de sensibilité. On peut pas comme ça rentrer, supprimer. Enfin, je suis pas. Ce serait complètement stupide, je pense. Vous prenez, je vais prendre deux exemples différents. Vous avez aujourd'hui un ministère de la Justice, comme je le mets. Souvent, les gens me disent, mais vous êtes en contradiction. Non, je considère qu'aujourd'hui, le ministère de la Justice est le parent pauvre du budget de l'État depuis maintenant des dizaines d'années. Que cette justice aujourd'hui, la lenteur des procédures crée un dysfonctionnement majeur dans notre pays. J'ai cru comprendre que un divorce, c'était 386 jours. Pour le 500, excusez-moi, presque un an et demi.
J'ai fait plus long.
J'y suis pas encore. J'espère que ça n'arrivera pas. Oui. Mais 500, je crois que c'est 580 jours de procédure. Enfin, on arrive sur des choses qui sont complètement démentes. Quand on voit que la Cour européenne de justice considère que on est 37e pour et on est devant des pays comme la Géorgie. Vraiment, on a des pays autour de nous qui ont un niveau économique, mais je dirais à des années-lumière d'une autre. Donc on a un grave problème. Je pense, moi, pour essayer de polémiquer un peu, je pense qu'on a une classe politique qui a peur de la justice. On peut le voir avec les différentes affaires et qui n'oserait pas leur donner des moyens, parce que leur donner des moyens, c'est un peu leur tendre le bâton qui va les battre juste après.
Alors, quels sont pour vous justement les principaux, les grandes fonctions de l'État qu'il faut préserver et celles qu'il faut mettre au régime?
L'éducation nationale.
D'accord.
Alors, éducation nationale, on parle de remettre des professeurs, il faut comprendre aujourd'hui. Il faut regarder ça sereinement. Alors, je sais que c'est très dur, ça va être la partie où, effectivement, les gens sont les plus vindicatifs. Mais on a un professeur aujourd'hui, collège et lycée, par exemple, qui est à une présence de 17 heures par semaine.
Oui.
Alors, on nous raconte, alors ça, c'est bien, il y a des gens peut-être qui le croient, on nous raconte qu'effectivement, derrière, ils ont des préparations de copies, des corrections de copies, à d'autres. Ils sont aujourd'hui, l'éducation nationale, c'est la première administration au monde, devant l'armée chinoise.
Oui.
Ça suffit. Ça suffit. Moi, je demande qu'il y ait une présence de 30 heures par semaine, 25 heures de cours pour les profs de l'éducation nationale et une garde de 5 heures pour pallier à de l'absentéisme. Il faut savoir que les profs en France, quand vous prenez les chiffres, 83% de l'absentéisme des profs de l'éducation nationale, c'est le lundi et le vendredi. Vous avez aujourd'hui, entre les non-titulaires et les titulaires, un prof titulaire, par exemple, est 2,5 fois plus malade qu'un prof non titulaire. Ils font le même métier, ils sont dans les mêmes enceintes. Alors, soit il y a un virus pour les titulaires qu'on n'a pas encore trouvé, il faudra peut-être appeler l'Institut Pasteur pour qu'on puisse essayer de trouver une solution, soit il y a vraiment un jean-foutisme et une forme de sabotage. Parce que la partie la plus importante pour moi dans l'État, c'est l'éducation. Mais cette éducation-là, elle mène nulle part.
D'accord. Alors, oui, je vais accélérer sur les mesures parce que c'est bien qu'on passe sur vos mesures principales. Donc, des administrations sélectives néanmoins par type de ministère et par type d'objectif. Bon, il y a une mesure qui a peut-être été écrite avant, je ne sais pas si vous la maintenez, c'est celle de 80% des participations de l'État au sein d'entreprises cotées, à un moment où, bien évidemment, aujourd'hui, elles ne valent plus rien.
On
c'est
bien,
pas le bon moment.
On est bien d'accord.
Ouais. Et alors, il y a plus une mesure emblématique, alors je le comprends dans l'emblème, je ne suis pas sûr de le comprendre dans l'intérêt, qui est celle de la baisse de 30% des salaires du membre du gouvernement, qui ne sont pas des salaires très élevé de vous.
Alors, ouais. je vais vous dire, c'est une question de symbolique. Il n'y a rien de démagogique. Vous avez pu voir que, effectivement, je suis très, très loin de ça. Je considère aujourd'hui que l'argument qui est souvent ressorti, c'est qu'effectivement, les ministres sont trop payés. Et on revient encore aux différents indicateurs. On ne peut pas être ministre et avoir 11 000 euros, être nourri, logé, blanchi, voiture de fonction, etc. C'est pas possible. Les gens détestent ça. En France, on déteste ça. Je pense qu'il faut qu'il y ait une certaine rigueur. Donc, c'est-à-dire qu'ils auront un salaire de 7 000 euros. Alors, pourquoi 7 000 euros? Parce que on s'approche, je dirais, de 3 fois le salaire moyen d'un Français. Ça me paraît quand même raisonnable. Donc voilà, c'est une façon de dire, l'époque d'avant, c'est fini maintenant. L'État va être vertueux et l'État va devoir montrer l'exemple peut-être aussi à certaines grandes entreprises où effectivement il y a des rémunérations qui ne sont pas en accord avec la société d'aujourd'hui.
Alors, le financement effectivement de l'emploi. Donc vous préconisez des mesures avec 3 emplois sans charge sociale pour les moins de 50 salariés. Donc un emploi pour un jeune de moins de 26 ans et un senior, un pour un fonctionnaire licencié, ce qui est bien parce qu'effectivement, à un moment donné, on veut réduire le train de vie de l'État, il faut aussi penser où est-ce qu'on va les faire atterrir ensuite. Donc
bien
ça,
évidemment.
C'était très bien vu. Et un emploi libre, c'est quoi l'emploi libre?
L'emploi libre, c'est-à-dire que l'entreprise choisit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je voulais pas non plus avoir une politique d'emploi basée sur les jeunes, les seniors et les fonctionnaires, parce qu'après, vous imaginez, le trentenaire va dire, mais attendez, moi, ça fait 2 mois que je cherche du travail, à chaque fois, c'est un jeune ou un senior qui prend la place. Par rapport aux fonctionnaires licenciés, on a l'impression comme ça que moi, je m'attaque aux fonctionnaires. Il faut comprendre que les fonctionnaires, c'est la corporation française la mieux formée. Ce sont des gens qui passent des concours. On a besoin de leur énergie. Ne restez plus vous entasser dans les administrations, arrêtez de tourner en rond dans ces administrations, ils le savent. Moi j'en parle avec des milliers de fonctionnaires. Ils le savent pertinemment que ça peut plus durer, cette situation. Donc il faut essayer qu'il y ait un maximum de réactivité et il faut les prendre dans le privé pour qu'ils aillent au combat.
Exactement.
Pour combattre la mondialisation comme on le souhaite le faire.
Financement des entreprises, là je cite, j'ai pas des questions sur toutes, mais je pense que ça mérite énormément d'être cité. Une taxe bancaire sur le chiffre d'affaires des banques officiant en France qui sera réutilisée pour le financement des entreprises. Donc l'idée finalement c'est cette mesure qui consiste aujourd'hui à unifier la Caisse des dépôts, OSEO, etc. pour financer les entreprises, vous rajouteriez à ça une taxe que vous mettez comment dans le système? Vous
alors,
la gérez par une banque unique, vous la gérez par des fonds d'investissement, vous la gérez comment?
Moi, OSEO, je considère que c'est un organisme qui fonctionne admirablement bien, qu'il sert la croissance française. Le souci qu'on a, c'est qu'OSEO tout seul, il peut rien faire. Parce que la banque, à un moment donné, faut qu'elle sorte le pognon.
Ouais.
Et je suis bien placé pour ça. Le nombre de dossiers que j'ai déposés qui m'ont été refusés, je garde encore les mails avec les réponses négatives. Ça me permet de m'énerver un peu avant d'aller sur une radio. On a besoin d'argent. Donc, qu'est-ce que je fais? Moi, je dis très simplement, aujourd'hui, on a des franchises en France de fast-food qui doivent payer des royalties, qui payent des fois 4 à 5% de leur chiffre d'affaires à la maison mère. Moi, je dis 1%. Donc, je suis pas là pour faire des punitions, je suis pas là pour leur faire une fessée. Ce 1%, on va être entre 2,5 milliards et 3 milliards qui seront directement versés à Oséo. Oséo va le prêter lui seul aux entreprises. Et ensuite, l'entreprise va pouvoir rendre cet argent donc aux banques. Donc, on va les faire gagner de l'argent en plus. Mmh. Mais un taux réduit. Ouais. Les banques prennent à la BCE 1% et nous vendent à 4,5%. Nous, on va leur rendre à 1%, tout simplement.
Ouais. De toute façon, il y a une amélioration. Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'effectivement, les bénéfices des banques sont créés par l'amélioration de leur marge entre ce qu'on appelle le spread, hein, la différence entre ce que ça leur coûte et ce qu'ils revendent. Alors, comme les taux sont bas, on s'en aperçoit pas, mais en réalité, leurs marges ont augmenté de façon effectivement assez ahurissante. Mesures sur le logement social pour l'augmenter, faire en sorte effectivement qu'il y ait plus de logements avec des bénéficiaires sous le respect d'un certain nombre de plafonds. Alors, il y a une mesure sur la protection du modèle social que vous citez, c'est intéressante, si on peut la commenter, mais vraiment en 30 secondes, c'est le super brut.
Voilà. Alors moi, ce que je me suis rendu compte, c'était assez frappant, je me suis rendu compte que le salarié français n'avait pas conscientisé qu'il ne percevait que 50% de sa sueur.
Ouais.
Et ça nous mettait, nous, d'une certaine manière, chef d'entreprise, dans une situation de macro. Mmh. C'est-à-dire que nous, on vient le faire travailler. Quand on l'embauche, on sait pertinemment combien il va nous coûter globalement, parce que sinon on ferait mal notre métier, on n'est pas la fonction publique. Donc on sait combien il va nous coûter globalement. Donc moi, ce que je demande, c'est qu'au lieu que nous, on fasse le travail de donner les 80%, le fameux 1,8, aux différentes caisses, que lui-même réceptionne cet argent, qu'il aille sur son compte bancaire, et qu'il dise « voilà ce que me paye mon patron ». Voilà ce que mon travail m'a rapporté ce mois-ci. Et une partie, donc les différentes charges, c'est à lui de faire la démarche. D'accord. De les payer.
Donc que les gens se prennent conscience en
Exactement.
Voyant les chiffres.
Responsabiliser. Et à un moment donné, moi j'espère qu'on va arriver où les gens vont se poser des questions. Mais un smicard, par exemple, qui a du mal à se loger, a du mal à boucler les fins de mois, qu'on m'explique comment on va lui dire, écoutez monsieur, voilà, il faut que on a besoin de 500 euros pour la sécurité sociale. Mmh, mmh. Donc on voit bien qu'on a un monstre aujourd'hui, la sécurité, c'est un monstre qui est plus géré, qui grossit d'année en année, qui va nous étouffer tout simplement.
Donc, leur faire prendre conscience un petit peu de d'où va cet argent, de façon à ce qu'ils aient pas l'impression effectivement que c'est l'entreprise qui le confisque.
Exactement.
Politique familiale. Alors moi j'aime bien parce que du coup ça met un peu d'excitation dans le week-end.
Oui.
Une politique nataliste ambitieuse, donc plus d'enfants, sachant qu'on n'est pas trop mal loti par rapport aux autres pays européens.
On sera toujours trop mal outil. La France doit très rapidement dépasser cette barre des 100 millions d'habitants pour peser réellement sur son économie, ses prospérités économiques. Et on a besoin, encore une fois, d'ici quelques années, moi je pense que les pays vont, avant qu'un chef d'État aille dans un autre, ça va être le PIB qui va compter. Ouais. Hein. Il y aura des échanges énormes et il faut vraiment être le plus lourd possible et peser un maximum.
Et enfin, vous avez des mesures sur l'agriculture et sur la défense. L'agriculture, effectivement, pour la remettre au centre d'un certain nombre de choses et la remettre dans des mesures compétitives. Et la défense, parce qu'effectivement, vous dites le budget dégringole et finalement, on oublie l'importance. Et vous citez notamment Israël, qui est effectivement un exemple parfait de ce point de vue-là, notamment dans ce que ça génère ensuite comme application civile de la recherche et développement qui a été faite.
Effectivement.
Alors, il manque une chose, avant de passer aux questions flash et de finir ensemble. J'ai rien vu sur justement un petit peu plus les PME et un peu plus l'export, l'internationalisation, qui sont les deux mots principaux. Nos PME ne grossissent pas et ne s'internationalisent pas. Est-ce que ça va être un de vos compléments de programme prochainement?
Ouais. Nos PME, tant qu'on aura, cet État qui sera aussi gros, cette sécurité sociale qui va peser sur les salaires, tant qu'on aura cette incapacité pour les entreprises d'embaucher, il faut savoir que 5% des entreprises françaises exportent. Mmh. Ce qui veut dire qu'on a un espoir des perspectives économiques dans le pays qui sont complètement dingues. Je veux dire, c'est hallucinant.
Oui, on est
à l'âge, France est à l'âge
on a
la préhistoire. Mm. On a la préhistoire. Heureusement qu'il y a une radio comme la vôtre qui permet de parler ouvertement de ces choses. Donc on a des perspectives de croissance avec les milliards d'habitants qu'il y a en Asie, avec des pays émergents qui sont en train de.
Ouais.
Et les 5%, c'est ridicule. Donc il faut d'abord fluidifier. Faire en sorte que les gens se disent « je vais créer mon entreprise sans aller au casse-pipe », parce qu'aujourd'hui, quand on voit la mortalité des entreprises françaises, on peut considérer quand même qu'il y a des gens que ça effraie, et je suis le premier à les comprendre. Donc c'est comme ça qu'on pourra exporter, mais l'exportation, c'est fondamental. C'est depuis la nuit des temps, il faut vendre pour s'enrichir.
Ouais. Donc là, il y a un vrai pan à étudier qui mériterait effectivement un développement sur lequel on reviendra. Quelques petites questions avant qu'on se quitte, Alexandre. Quel est le candidat le plus nul, à votre avis, aujourd'hui?
Je pense que parmi les grands candidats, je pense qu'il y a un match nul pour mettre un peu d'humour, un match nul entre Monsieur Hollande et Monsieur Sarkozy, pour être honnête. Je parle pas des autres candidats parce que je pense que là on est en train de nous dire déjà quel va être le deuxième tour. Moi je suis là quand même pour remettre les pendules
alors,
à l'heure.
Il y a pas encore un début de programme, une espèce de plateforme commune du PS. Quelle est la mesure qui vous paraît la plus hérétique aujourd'hui à gauche, notamment puisqu'il y a pas encore de programme de droite.
Oui, ils ont pas de programme à gauche. Je sais pas ce qu'ils font depuis des années. Ils ont que ça à faire, un programme. Moi j'en ai un. J'ai des mesures phares. Ils ont pas de programme, mais ils cherchent encore le programme. On a l'impression que c'est toujours en train de chercher le programme, faut qu'il s'arrête à un moment donné, peut-être qu'il passe à autre chose. Ou le contrat générationnel de François Hollande, c'est une bonne boutade. Je pense que ça a dû faire rire pas mal de chefs d'entreprise. C'est pas mal, je trouve. C'est complètement, ça s'applique à combien de pourcents d'entreprises. Est-ce qu'on a des chiffres là-dessus? Ouais. J'espère qu'ils vont travailler dessus parce qu'ils ont le temps, ils sont payés grassement pour ça. C'est un vieux qui va apprendre à un jeune. C'est la petite maison dans la petite prairie. Mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui? C'est pas les mêmes postes. Un senior aujourd'hui, il a beaucoup d'expérience, beaucoup de valeur ajoutée. Il va dans les entreprises françaises, il aura autre chose à faire que de materner un nouveau qui va arriver.
Donc pas d'illusion du
tutorat. Bien sûr que non, ça c'est.
Et pour conclure, un petit mot sur les volontés protectionnistes de certains partis d'extrême gauche ou d'extrême droite. Je sors de l'euro, je ferme les frontières, je m'enferme dans le bunker et je combats.
Oui, on a vu le bunker, ce que ça nous fait. On va juste, c'est impossible, je veux dire, aujourd'hui, vous pouvez pas se dire tout seul. On a des traités à respecter. Après, vous allez avoir des effets de rétorsion. Moi, je me dis, je suis chinois. À un moment donné, les Français me disent que lorsque j'envoie un produit, bon, certes de mauvaise qualité, mais lorsque je l'envoie à Poitiers, bah, le lendemain, j'arrête de recevoir les sacs Louis Vuitton. Je vais faire en sorte peut-être que je vais torpiller leur cargo, tout simplement. Donc, à un moment donné, faut pas se voiler la face. On sait bien comment ça va se passer. Ouais. Vous me mettez un coup, je vous en mets un, et puis voilà. Après, c'est l'escalade. C'est ce qui a créé aussi beaucoup de guerres. Hein. C'est ce protectionnisme à gogo. Liberté d'échange, mouvement, c'est que comme ça qu'on va s'enrichir.
Alexandre Calé, merci beaucoup.
Merci à vous.
Je rappelle que aujourd'hui, donc, vous lancez France Unité, une candidature à la présidentielle, une équipe qui s'organise, 40 signatures. Donc, bon courage pour le reste. On va suivre ça de très près. Donc, vous pouvez compter sur nous et sur notre antenne. Je m'avance, mais je suis sûr qu'on le fera. Et puis, on fera un petit point le long de la campagne pour voir comment ça se passe.
Avec grand plaisir. Merci beaucoup.
Je vous en prie. À bientôt pour une prochaine émission Politique PME. Sur We Do Biz, cette magnifique radio que chaque jour de plus en plus d'auditeurs et d'auditrices plébiscite. À bientôt, bonne journée.